Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Willy Ronis avait plus de 99 ans quand il s'est éteint en septembre 2009. Mes photos ne sont pas des revanches contre la mort et je ne me connais pas d'angoisse existentielle, disait-il. Je ne sais même pas où je vais, sauf au-devant, plus ou moins fortuitement, de choses ou de gens que j'aime, qui m'intéressent ou me dérangent. En 1985, quand Willy Ronis faisait partager son bon plaisir aux auditeurs de France Culture, il n'était encore qu'un jeune homme de 85 ans, en très bonne forme, qui attendra encore quelques années avant de raccrocher ses appareils. Il a depuis rejoint le panthéon des grands photographes français, aux côtés de Doisneau, Cartier-Bresson, Lartigue, Hadjet, Brassailles et bien d'autres. Aujourd'hui reconnu et exposé dans le monde entier, Willy Ronis aura pourtant été longtemps oublié et même ignoré, avant de connaître à la fin de sa carrière les honneurs et la grande notoriété. Mais qu'aurait aimé que l'on dise de lui Willy Ronis après sa mort ? C'était un brave type et il était bon photographe, répondait-il simplement.
Le bon plaisir de Willy Ronis.
Nous arrivons à un point stratégique. C'est tout encombré d'arbres, de grands sureaux, et le point de vue n'est accessible qu'en revenant un petit peu sur nos pas, puisque nous sommes sur le pont de Créteil, et ça se dégage un petit peu, et nous allons avoir une idée de ce que j'ai pu voir lorsque je suis venu la première fois par ici.
La belle image, c'est une géométrie modulée par le cœur. Rigueur et sensibilité, c'est tout Willy Ronis. Willy Ronis, un photographe, témoin aigu de son siècle, tendre voyeur du monde et des petites gens. Un pétillant octogénaire qui nous entraîne au pont de Créteil, où il y a 40 ans, il prit une photo. La campagne, aujourd'hui, est un peu moins présente, mais le bord de la rivière a gardé son charme.
J'étais déjà venu par ici, j'avais été tout à fait séduit par ce que l'on y voyait, une jeunesse heureuse, insouciante, des vélos un peu partout, des échafaudages en tube d'où on pouvait plonger, et naturellement beaucoup de canaux, même un peu de camping dans certaines îles. Et ici, j'avais été en arrêt parce que j'avais vu quelque chose d'assez étonnant. Il y avait donc la Marne en dessous de moi, et une pelouse, c'est-à-dire un bord de l'eau avec des pêcheurs, un grand terrain herbeux derrière eux qui s'étendait assez loin, de grands arbres au bord de l'eau. Sur cette photo prise en hauteur, on ne voyait pas l'île Sainte-Catherine parce qu'elle est hors champ à gauche. Mais sur la droite, je voyais mes pêcheurs, des gens qui avaient amené leurs quatre chevaux ou leur petite Simca pour la laver le dimanche, et puis pour s'asseoir sur l'herbe, pour rêver, et d'autres pour jouer au volley-ball plus loin. Et puis il y avait au premier plan, quasiment au-dessous de moi, un chemin qui a son équivalent maintenant, que nous voyons entre les arbres, du premier plan, là, qui est en dessous de nous, il y avait un espace vide où le soleil donnait. Et je m'étais dit, tiens, voilà une photo à faire, mais il me faudrait quelque chose dans cette tache blanche. Alors j'ai attendu. Et à un moment donné, un homme est arrivé avec un sac. Et au moment où il s'est inscrit dans la tache blanche, j'ai appuyé sur le déclencheur.
L'écrivain Gérard Massé est le complice de cette promenade sur les bords de la Marne, sur l'île Brisepin.
Ce qui me frappe en regardant les photos, pas seulement celle-ci d'ailleurs, toutes, presque toutes, et ailleurs qu'au bord de la Marne même, c'est que la photographie a l'air d'être pour toi depuis longtemps l'après-midi de congé que te donnait ton père hors de la boutique, puisque je rappelle que ton père tenait une boutique de photographes.
Oui, et un studio.
Ronis avec deux S.
Oui, Ronis.
Et sur laquelle il y avait écrit d'ailleurs « On pose par tous les temps ».
Oui, on pose par tous les
temps. Un musée, elle est d'ailleurs très belle.
Oui,
c'est en lettres blanches sur la vitrine.
Ouais.
Et tu racontes toi-même dans la préface largement autobiographique au volume intitulé « Sur le fil du hasard » qu'au fond, la photographie, ça a été pour toi le moyen de sortir du studio paternel, de t'échapper. Et c'était l'après-midi de congé. Et ce qui me frappe, c'est que ça se sent sur les photos, même quand elles sont largement postérieures, c'est toujours une façon de s'échapper de Paris, des contraintes, d'un horaire, du courrier, des factures, etc. Voilà. Et ce qui me frappe aussi, c'est que ce goût du plein air se retrouve dans le goût de l'air tout court. Car il y a dans les photos du mouvement et de l'air.
Là, nous sommes tout à fait au calme déjà. La rumeur des voitures est lointaine. Sur la droite, nous avons donc les haies qui nous séparent des jardins ouvriers.
Oui, les arbres, c'est presque à chaque fois l'occasion d'un graphisme dans la photo.
Ah oui, les arbres, c'est très intéressant parce que ils ont chacun leur forme, leur attitude.
Oui, souvent les personnages apparaissent dans une trouée, une trouée de lumière, ou parce que tout à coup, justement, entre les arbres, il y a un petit espace. Et alors, ça donne l'idée que que l'homme-là est de passage. C'est comme s'il faisait une halte, comme s'il était en suspens dans ce monde. Ça me frappe beaucoup. Peut-être parce que c'est aussi toujours ou l'après-midi de congé ou le dimanche.
Oui,
quelque chose d'un peu particulier.
C'est des photos que systématiquement j'ai faites le samedi ou le dimanche, parce que moi j'aime bien qu'il y ait du monde sur mes photos. Je ne suis pas un paysagiste pour le paysage. La vie a fait que les dernières années de ma femme se sont déroulées dans une maison près d'ici, à Nogent, et qu'étant donné qu'elle a été très bonne marcheuse jusqu'à la fin de sa vie, tous les samedis et dimanches, nous faisions des promenades entre 88 et 91 au bord de la Marne.
Je veux dire à ce propos qu'une des photographies peut-être les plus émouvantes et les plus réussies, mais il y en a bien d'autres, de Willy Ronis, c'est une photographie dont je ne connaissais pas l'histoire quand je l'ai vue pour la première fois. Je me souviens que quand je suis allé dans l'appartement de Willy Ronis, la toute première fois, il y avait chez lui une photographie qui m'a beaucoup frappé, et c'était un pur graphisme de feuillage, comme un fond de tapisserie, puis il y avait un tout petit personnage, une femme perdue. Hein, et j'ai dit à Willy combien cette photo me frappait, combien je l'aimais immédiatement. Et il m'a raconté alors que précisément c'était sa femme, ce personnage perdu dans ce fond de paysage. Elle est particulièrement belle.
C'est dans le parc de la Maison des Artistes à Nogent où elle a terminé ses jours, puisqu'elle était peintre.
Elle est proche d'une autre photographie où on voit un chat noir sur un fond de feuillage, mais les feuilles là sont un peu plus grosses.
Oui, cette photo à laquelle tu fais allusion, Gérard, c'est une photo que j'ai faite
en... un tout autre paysage.
Ah oui, c'est en Provence. C'est sur la colline qui était en face de notre maison à Gordes. Et je me promenais dans ce fouillis de végétation. Et puis tout d'un coup, je ne sais pas, je me suis retourné et j'ai vu ce chat. Ce chat qui avait toutes les allures d'un chat sauvage, parce qu'il me regardait fixement. Et je me suis dit, si je porte mon appareil à la hauteur de mon œil, il va se sauver. Alors, j'avais le Rolleiflex. À ce moment-là, je travaillais au Rolleiflex. C'était encore le début des années 50. J'avais le Rolleiflex au flanc. J'ai approché ma main du Rolleiflex. Et au jugé, j'ai appuyé. Le cliché était un peu surexposé, mais qu'importe. En noir et blanc, ça se rattrape. Et c'est une photo que j'aime bien.
Mais il y a quelque chose de commun entre le chat et le photographe.
Ah, peut-être. Il
guette.
On est aux aguets.
Voilà.
On est aux aguets.
Et puis, il y a un moment de détente qui doit être le moment propice si le hasard est de la partie ou la chance.
Oui, mais nous, on ne se sauve pas après le déclic. Ah oui, parce que moi, je ne me cache jamais. Hein? Je ne me cache jamais. Je ne suis pas un voleur d'images, vraiment, je ne peux pas dire. Mais je trouve qu'il est même tout à fait inutile de se cacher. Parce que quand tu es avec un appareil au milieu des gens, si tu fais beaucoup de photos, tu deviens transparent. Mmh. Parce qu'ils ne savent plus ce que tu fais. Bon, on peut suivre par là. On va arriver bientôt au pont.
Grosset, Raffo, c'est l'agence de Willy depuis très longtemps, enfin en deux épisodes. Vous avez donc une longue histoire avec Willy Ronis.
Oui, on a une histoire, effectivement, il a dû rentrer à l'agence en 1946, mais c'est aussi une histoire un peu familiale parce que Raffo a été créé par mon père après la guerre, donc je connais Willy depuis ma petite enfance. Et maintenant, je travaille à l'agence, alors c'est une double histoire, une histoire de travail et une histoire d'amitié en même temps. Et l'agence avait été créée en 1933, avant la guerre, par un émigré hongrois qui s'appelait Charles Radeau. Et Raffo vient de Radeau Photo, Raffo. Et donc, il avait eu l'idée de créer cette agence pour que les photographes puissent bénéficier de leurs droits d'auteur, à la différence des agences télégraphique, style AFP, enfin qui était Havas à l'époque, et AP, les agences de fil. Et donc lui, c'était vraiment un intérêt pour les photographes. Et puis quand il a créé l'agence, il avait rassemblé autour de lui le groupe de photographes hongrois, et puis il avait donné une première commande à Robert Doisneau, par exemple, avant la guerre. Et puis quand la guerre est arrivée, il est parti à New York parce qu'il était juif et que les lois l'empêchaient de continuer à travailler à Paris. Donc il est parti, et à la fin de la guerre, mon père, qui lui, déjà d'avant-guerre, c'est un peu compliqué cette histoire, connaissait tous ces photographes parce qu'il aimait bien ce milieu, les photographes lui ont dit « mais pourquoi tu reprends pas l'agence, t'as qu'à rouvrir, tu verras, c'est très facile ». Donc il a rouvert Raffo, les photographes sont revenus, Doisneau, Ronis et d'autres se sont joints, et voilà, donc c'est vraiment une histoire familiale, Raffo. C'est comme ça que c'est ressenti aussi par tout le monde. On travaille de père à enfant. Les enfants des photographes travaillent à l'agence. Et...
À l'origine, les photographes sont eux-mêmes très, très partie prenante, enfin, par le besoin qu'ils ont d'être réunis et d'être diffusés et protégés autrement.
Oui, parce que au départ, effectivement, il n'y a pas de marché. Le marché n'existe pas. Il y a pas, il y a un petit marché français, mais c'est vrai que tous les photographes des années 45-50 ont réussi à vivre grâce aux commandes des magazines américains qui s'intéressaient à ce qui se passait en France. Le marché français était un marché extrêmement réduit. Il y avait rien. C'était quand même la période de l'après-guerre. Il n'y avait pas de films. Il y avait des difficultés énormes pour pouvoir photographier. Et ces photographes avaient effectivement besoin d'un agent ou d'une agence qui puisse diffuser leurs images et qui puisse leur assurer des commandes de façon à ce qu'ils puissent eux-mêmes travailler sur leurs sujets propres. Alors, Willy, c'était Belleville-Ménilmontant, il a fait toutes ses photographies comme ça, il allait se promener, mais il vivait quand même grâce à des travaux de commandes qu'il avait pour la SNCF, pour Air France, pour différents organismes qui lui assuraient son quotidien. C'est vrai que s'il y a une commande, Willy le fera si ça lui plaît, mais il a la chance maintenant de pouvoir choisir ce que n'ont pas toujours, ou ce que les photographes n'ont pas toujours eu. Mais maintenant, il peut se permettre de choisir la commande qui lui plaît. S'il n'a pas le temps, si pour une raison le sujet lui plaît pas trop, il peut se permettre de le refuser. Heureusement, il a quand même travaillé toute sa vie pour ça.
Est-ce que la presse, l'illustration dans la presse a évolué ces dernières années?
Elle a évolué ces 20 dernières années. Il y a eu une presse qui s'est créée, qui est la presse de reportage magazine. C'est Géo, c'est Grand Reportage, c'est le Figaro magazine. Tout ça, c'est une presse qui n'existait pas du tout et qui a permis aux photographes de reportage, qui ne sont pas les photographes d'actualité des grandes agences Gamma Sigma Sipa, mais des photographes d'agences comme Magnum ou comme Raffo, d'avoir un débouché dans cette presse parce que ça correspond davantage à leurs travaux. Et ça, c'est effectivement, c'est considérable ces dernières années.
Vous travaillez assez peu sur l'actualité.
On travaille sur l'actualité, on travaille jamais sur l'actualité. Par exemple, on ne fera pas la sortie d'un conseil des ministres. Mais une actualité qui se passe en Bosnie, on a des photographes qui y sont. Souvent ce sont des photographes étrangers parce que on représente des agences étrangères en France, donc eux ont des correspondants là-bas et on reçoit le matériel. On a par exemple on a eu le sauvetage de ce pilote américain la semaine dernière. On avait un photographe qui se trouvait sur le porte-avions et donc on a fait les 6 pages dans Paris Match cette semaine avec les photographies ça c'est de l'actualité, mais c'est de l'actualité, c'est de la chance en même temps. Dans ce cas-là, ce sont plus des coups, mais on a quand même une présence sur les points parce que, grâce à notre réseau d'agences, on a des photographes qui travaillent pour des journaux et donc on avait des photographes au Rwanda, on avait des photographes en Afrique du Sud quand il y avait tous ces événements en Afrique du Sud. On a toujours des photographes sur les points chauds, mais c'est toujours du long terme. Il peut y avoir un coup comme ce pilote et dans ce cas-là, on le récupère. Autrement, effectivement, on a du matériel qui arrive régulièrement de ce qui se passe dans le monde entier.
Et vous avez par les photographes qui sont liés à Raffo beaucoup de sujets qui sont pas intemporels, parce que la photo n'est jamais intemporelle, mais qui sont des thèmes plus généraux, des thèmes sociaux, disons, hors de l'actualité événementielle.
Je crois que c'est peut-être comme ça qu'on peut qualifier l'agence, qui serait une agence de photographes humanistes. Et on aura, par exemple, Willy a énormément travaillé sur les mouvements sociaux depuis 45 ou de 35 à 55, ou 60, jusqu'à ce qu'il parte en Provence. Et ça, c'est un sujet, effectivement, c'est toute une histoire du mouvement social en France qui fera l'objet d'une exposition l'année prochaine en banlieue parisienne, dans 3 communes de la région parisienne, avec un livre en même temps, et tout ça, c'est notre travail aussi. Et ça, c'est effectivement tout ce qui est la vie sociale dans le pays, c'est peut-être une caractéristique de l'agence. Et vraiment du reportage humain, de photographes qui partent traiter un sujet humain. C'est très difficile à qualifier quand même, à expliquer exactement ce que c'est. C'est facile quand on voit les images parce que ça saute aux yeux, mais à expliquer comme ça, c'est un peu plus compliqué. C'est pas l'actualité pure, mais ça sera de l'actualité dont on parlera en fin d'année. C'est ça en fait, je crois.
des choses toujours un peu en profondeur.
C'est ce qui restera de toute façon.
Et ça, cette ligne s'est faite comment, un peu par hasard au fil des années, ou est-ce que c'était une volonté des fondateurs et puis de votre père?
Je pense que ça s'est fait petit à petit, mais ça s'est fait à cause et par les photographes qui ont rejoint l'agence. C'était des photographes qui étaient intéressés par ces sujets-là. C'était, encore une fois, je crois que la période de l'après-guerre était quand même une période de conscience, de prise de conscience du pouvoir de la photographie et ça a donc déterminé leur choix. On recherche un journaliste en photographie. C'est ça ce qui permet la publication dans la presse, parce que c'est quand même, il faut être journaliste pour savoir trouver les sujets, pour les voir en profondeur, et puis pour les photographier avec un intérêt de journaliste. C'est ça ce qui est demandé.
Willy Ronis fait des reportages sur des grèves, sur le retour des prisonniers de guerre, sur la vie des mineurs dans le Pas-de-Calais. Il photographie les gens simples, comme ils sont, comme ils vivent. Plus souvent au travail qu'à la fête.
Est-ce qu'il y a un esprit Raffo ?
Oui, il doit y avoir un esprit Raffo, ça doit être la famille. Mais la famille, sans que ça soit un poids, il faut que ça soit quand même la famille au sens large. On a les photographes qui ont commencé avec nous en 1945 sont toujours là. Et puis, il y en a d'autres qui sont venus s'adjoindre à ces photographes. On a eu des disputes, comme dans des familles. Mais on revient quand même, et je crois que c'est ça ce qui est important, c'est qu'il y a un respect de chaque membre de l'agence.
Ils s'entendent bien entre eux en général, ou est-ce qu'ils sont en concurrence difficile?
Non, ils s'entendent bien, ils travaillent tous dans la même direction, mais tous sur des sujets différents, donc aucun photographe n'est vraiment en concurrence avec l'autre. Et ça, c'est ça aussi, c'est le climat de l'agence. Sinon, ce serait des disputes et des bagarres permanentes pour essayer de vendre un sujet plutôt qu'un autre. Et là, c'est pas le cas. Il y en a un, ça va être l'environnement, l'autre, ça va être le social, le troisième, ça va être l'opéra. Tout ça, c'est de l'humain, mais c'est pas le même sujet.
Jean-Claude Gautran est un historien de la photographie, un défenseur de ce qu'on appelle la photographie humaniste. Une photographie du reportage sensible, pleine de fraternité, dont Willy Ronis n'est pas le moindre des représentants. Une photographie qui a une tradition et qui n'est pas démodée.
D'abord, la photographie humaniste n'est pas née en 50 avec Douaneau, avec Isis, avec Ronis à Paris. Mais que quand on cherche bien dans la photo, on la remonte beaucoup plus haut, beaucoup plus loin dans le temps, et qu'elle ne s'arrête pas avec eux, comme ils nous le disent, mais qu'elle continue d'une autre façon, moins apparente, si vous voulez. Mais il y a eu des digressions sur cette photographie. C'est un courant qui vit toujours. Ce courant n'est pas né comme ça, brutalement, dans les années 40, comme on l'a dit, c'est pas vrai. Quand on remonte dans le temps, moi je me souviens, j'ai beaucoup étudié cette période, et un journal qui est paru en 1896, je crois, qui s'appelait Paris Moderne, c'est le premier journal qui a commencé à publier des photographies de rue. Mais des photographies de rue, non pas événementielles, mais quotidiennes, si l'on peut dire. À savoir, justement, les hommes des rues. Et en 1896, cet ancêtre de Life, hein, bien avant, disait qu'effectivement... ce qui l'intéressait, ça n'était pas... Il reprenait une phrase de Baudelaire que je ne connais pas par cœur, mais qui, grosso modo, disait qu'il y avait deux façons de faire de l'art, ou d'aller dans l'exceptionnel, ou d'aller dans le naturel et le quotidien. Et eux disaient, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous démontrer le quotidien dans lequel vous vivez. C'est ça, la photographie humaniste. Mais c'est 1896, ça. Donc, je veux dire, les racines sont très profondes. Bon, le courant était bien... Il y a eu quelques photographes, on en connaît. C'est là où je disais qu'on a encore tout à découvrir, on en connaît quelques-uns qui s'appellent Géniaux, qui s'appellent Vert, dont on a des photos à Carnavalet. Mais bon, mais il y avait des gens qui s'appelaient, comme M. Kertész au début, ces photographies de Hongrie. c'est uniquement cette façon d'approcher les choses, les paysans, le violoniste, le berger, c'est cette façon d'approcher les gens dans leur propre quotidien, cette façon très humaniste de communier avec ceux qu'il voyait. Derrière lui, il n'y a pas que lui. Brassailles, quand il s'est promené dans les années 30, c'était déjà ça. C'est eux qui ont créé un petit peu le ferment, fertilisé le terrain, qui a permis, justement, dans l'immédiat après-guerre, l'éclosion du grand courant humaniste. Et ça s'explique aussi, ça, parce que c'était très diffus, ce que je viens de vous donner. C'était quelques individus qui créaient, qui œuvraient dans ce sens. Mais tout de suite après-guerre, en 1945, 1946, les gens sortant du conflit que l'on connaît, malheureusement, ont eu besoin d'un seul coup de changer leur repère, de changer leur échelle de considération du monde. Ils ont eu besoin, devant l'apocalypse qu'ils avaient connue, de retrouver des racines quotidiennes au terre-à-terre. Et c'est pourquoi la photographie de Doineau, d'Isis, de Ronis, de tous ces gens-là, mais est venue combler leur attente. Leur attente d'image, parce que pendant 4 ans, on n'avait plus d'image. Il n'y avait pas la télé à cette époque-là, n'oublions pas. Donc la presse, il n'y avait plus d'image. Leur attente d'une autre approche de l'homme. Une approche pacifique, une approche plus amoureuse, si l'on peut dire, que ce qu'on avait connu pendant 4 ans. Et ça a permis l'éclosion de ça. Ça s'est ajouté avec le besoin de la presse qui couvre toujours les besoins du public, qui est toujours à la recherche des besoins du public, donc qui a diffusé au maximum cette photographie. Et de l'édition qui a connu là aussi ces grandes périodes, les années 50, dans l'édition, il y a eu des bouquins fabuleux. On n'a jamais connu une époque aussi fertile en édition, qui à l'époque en héliographie, ce qui était beau en plus de ça. Tous les bouquins de Cali, ou les bouquins de technique graphique déjà avant-guerre, mais ça a été vraiment une diffusion énorme de l'image. Le côté événementiel, comme vous l'avez dit, mis à part, ça c'est la photographie de reportage, c'est encore autre chose, c'est une autre fonction de la photographie. Mais celle-ci, c'est une fonction plus sociologique, une fonction plus d'analyse et de regard calme sur un environnement, sur une réflexion sur le monde dans lequel on vit. Mais c'est vrai que la photographie, elle a un domaine qui lui est propre, un domaine où vraiment elle resplendit de tous ses feux. Il y a qu'elle qui peut raconter le monde tel qu'il existe.
Jane Evelyn Atwood est une photographe qui aime les sujets difficiles, le travail en profondeur. Elle a conquis l'estime et l'amitié de cet aîné attentif qu'est Willie Ronis.
Dans cette photographie que je tiens là, c'est dans une chambre, très sombre. Une prostituée est assise, nue, et un client est au premier plan, de profil fuyant et un peu flou, puisque le point est mis sur la femme. Et on peut penser que c'est au cours d'une conversation. La femme a la main droite qui se tend vers une table basse, probablement, dont on voit un coin éclairé. Peut-être va-t-elle prendre une cigarette ou quelque chose comme ça.
Tu as vu mon exposition à la Villette il y a 2 ans?
Non.
Oui, alors ça c'est le tout premier travail que j'ai fait,
ouais.
Qui était mon premier livre.
Oui.
Donc je ne crois pas que tu le connais.
Non, je ne connais pas ça. Non.
Et c'était un travail fait avec des femmes qui travaillaient comme prostituées,
oui.
Dans un immeuble rue des Lombards.
Ah oui, oui. Ah ben, c'était le quartier chaud, ça. C'est au Hall.
Et c'était en 1976.
Oui, oui. Mais enfin, c'est une scène, en somme, d'intimité, mais d'intimité de conversation.
Hein.
Là, c'est cette photo, c'est peut-être celle qui, pour moi, pose un problème. Un problème, parce que on voit au premier plan, il y a deux personnages de buste, en buste. La prostituée à la poitrine généreuse, au premier plan, qui tient une cigarette, et derrière elle, comme lui parlant à l'oreille, un monsieur d'âge très mûr, avec lunettes métalliques. Et là, le problème que j'évoquais, c'est comment as-tu pu avoir l'autorisation venant de cet homme de le photographier avec la femme?
Je ne l'ai pas eu.
Tu ne l'as pas eu?
Non.
Tu l'as fait comme ça. Il ne s'est pas rendu compte?
Tu sais, il s'est rendu compte, ouais. Mais j'étais très naïf. J'avais un seul appareil, ouais. Et j'étais toujours là, ouais. Dans l'escalier.
Oui. Autrement dit, il te voyait.
Il me voyait, mais bien sûr, j'étais assise à côté d'elle. Ouais. C'était fait avec un 50 mm, je, ouais, crois. J'avais 50 et 35 mm, c'est,
oui,
tout à l'époque.
Oui, ça, c'est le 50, ça.
Et alors, lui, c'était un habitué.
Ah oui, hein? Oui, alors il n'était peut-être pas tellement gêné.
Il n'était pas gêné, mais il n'était pas menacé par ma présence. Je, oui, faisais partie du décor.
C'est ça.
Mais après, le problème de l'utilisation d'image.
Ah, là, oui.
Hein? Alors, peu de temps après ça, c'est la vérité, c'est un peu terrible, mais il est mort, ce monsieur,
oui,
d'une crise cardiaque.
Oui, oui.
Et alors, moi, je me suis renseignée d'après la prostituée, oui, sur son histoire, d'où il venait, etc. Oui. Et selon elle, il n'avait personne, il était toujours dans le quartier, il venait toujours chez les prostituées, alors... J'ai pris le risque d'utiliser cette photo dans le livre.
Oui.
Mais je ne la passe jamais à la télévision.
C'est ça, oui.
Et ni dans la presse.
Oui.
Cette notion de la menace du photographe sur le modèle et son envers, qui est la complicité avec le sujet, c'est une chose qui vous unit tous les deux. Enfin, c'est une attitude morale de photographe qui est la tienne, Willy, depuis toujours.
C'est pas seulement une attitude morale, c'est aussi une attitude de précaution. Parce que on peut se trouver dans une situation où une utilisation abusive, soi-disant, enfin, considérée comme abusive par une des personnes représentées, pourrait vous attirer des histoires graves. Et c'est de plus en plus aigu, ce problème-là. Il faut faire de plus en plus attention. Bien souvent, à l'agence, on me demande, et ça doit t'arriver aussi, on te téléphone et on te dit, voilà, j'ai un client qui voudrait utiliser cette photo, est-ce que tu crois qu'on peut la lui laisser utiliser sans problème? Alors je dis oui ou non. Et puis je demande quelle utilisation.
Voilà.
Mais même avant l'utilisation de la photo, il y a une attitude du photographe à l'égard du sujet, du modèle qui est, bon, pas tout à fait un modèle, mais de ces personnes.
Et de la personne dont on a chipé l'image.
Mais je me suis souvent demandé la question, qu'est-ce que les clients pensaient? La photo avec la prostituée nue,
oui,
ça s'est passé très vite. J'ai pris peut-être deux photos. You know, on est entré dans la chambre, la femme s'est déshabillée. C'était comme une provocation presque, parce, ouais, qu'elle est très marrante, cette fille. Elle a, ouais, fait vraiment un peu pour rigoler. Et lui, il a allumé une cigarette. Et moi, j'ai fait deux photos et je suis partie. Et c'est comme ça que j'ai eu cette photo.
Ouais.
Et j'ai eu la chance que la femme était très belle et, ouais, pleine de grâce.
Mais l'homme est très peu reconnaissable.
Non, il n'est pas reconnaissable. Mais il m'a vu avec, oui, l'appareil. On, oui, est entrés dans, oui, la chambre ensemble. Oui. Et lui, il est dans un état faible quand il arrive chez les prostituées. Parce qu'il a
c'est
une timide. Demande.
C'est intimide.
Oui. Oui, et les femmes commandent. Surtout rue des Lombards, où c'était, ouais, les femmes qui avaient des clients masochistes.
Ah.
Alors, elle était en commande et lui, il était complètement timide et silencieux. Et moi, j'ai fait mes deux photos et je suis partie. Mais j'étais pas gourmande et j'ai pas travaillé la situation, comme on dit.
Ouais.
J'étais pas une photographe de presse.
Ouais.
Et ça, je suis pleine de gratitude aujourd'hui que c'était comme ça parce que j'ai appris avec cette maison. C'est là où j'ai appris la photographie. parce que j'ai appris de travailler sans lumière, j'ai appris vraiment la nature humaine en travaillant avec les femmes prostituées et des clients et la police, et ça m'a tout appris là. C'était une bonne fondation.
Formation.
Que vous choisissez vos sujets, qu'est-ce qui vous détermine, qui vous fait prendre la décision de faire les femmes en prison, de faire les légionnaires de...
Souvent, ça commence visuellement. C'est-à-dire que, par exemple, avec les légionnaires, je les ai vus. Je les ai vus encore à Lourdes. Je dois préciser, je ne suis pas religieuse du tout, mais c'est un endroit fabuleux pour faire des photos.
Ah, c'est fascinant.
Parce qu'il y a des foules de gens.
Fascinant.
De partout, et c'est aussi un très bon exercice. C'est très difficile d'avoir une bonne photo là-bas parce qu'il y a trop de monde.
Il y a trop de monde.
Et c'est une bonne école pour la photographie. Donc j'ai vu les légionnaires là-bas et ils étaient fascinants. Et souvent ça commence comme ça. J'avais vu des prostituées dans la rue et elles m'ont fascinée aussi. Et ce sont des mondes que moi je ne connais pas.
Tout à l'heure, nous avons vu une photo de deux aveugles justement qui étaient dans un format. Correspond à peu près à une page de livre. Et la même photo est sur votre mur dans un plus grand format, et un format qui est plus habituel pour les expositions. Qu'est-ce qui vous détermine dans le choix du format, du tirage d'une photo? Est-ce que c'est une importance ou est-ce que c'est simplement une question d'utilisation de la photo?
Pour moi, ça dépend. Évidemment, il y a l'utilisation de la photo. Ça joue. Mais je vais faire un livre avec ces photos d'enfants aveugles. Et du début, j'imaginais ce livre petit et plutôt carré. Parce que je pense que ça serait presque vulgaire d'avoir un grand livre, d'agrandir ces enfants qui sont tellement intimes avec moi et intimes avec eux-mêmes et discrets. You know, ça serait trop de les agrandir beaucoup.
Oui, je vois bien ça. Et puis le format carré, pour nous autres qui travaillons en 24-36, ça a l'avantage de ne pas sacrifier les photons à largeur.
Tout à fait, oui.
Parce que dans les formats allongés, les photons à largeur sont un peu les parentes pauvres.
Mais avec la Légion étrangère, c'était le contraire. J'ai fait un gros livre, il est là-bas sur l'étagère, parce que j'ai voulu que ça soit bouillant et clinquant, comme la Légion est.
Ouais.
Je ne voulais pas du tout que ça soit discret.
Oui, ce n'est pas un sujet intimiste.
Et je l'ai fait en couleur pour la même raison. Que ça soit vraiment comme un album de famille qui roulait un peu la mécanique, comme on dit. Toi, tu travailles en couleur de temps à autre?
Oui, j'ai beaucoup travaillé en couleur dans les années 60.
Oui. Pour les commandes?
Pour les commandes. Oui. Et puis, depuis 1983 ou 82, je n'ai plus du tout touché la couleur jusqu'il y a quelques mois, où le directeur d'une revue m'a dit « Écoute, il y a une marque, et c'est Kodak, on peut le dire, puisqu'ils ne sont pas tellement nombreux à fabriquer des pellicules couleurs, qui a une nouvelle émulsion et qui demande à quelques professionnels de faire un rouleau, et on va publier la meilleure photo. Et tu veux, je te donne 5 rouleaux, et fais ce que tu veux. » Alors, j'ai pris les 5 rouleaux avec un petit peu de réticence. Et puis j'ai mis un rouleau dans l'appareil, j'ai commencé à faire quelques photos, puis ça ne m'a rien dit. Et au bout d'un certain temps, j'ai téléphoné à ce garçon, je lui ai dit « Écoute, c'est vraiment pas ma tasse de thé en ce moment, je ne veux pas me forcer à faire de la couleur pour la couleur, je vais te rendre 4 rouleaux, et bon, celui qui est dans l'appareil, ben, je le finirai peut-être dans 6 mois, dans un an ». Puisque je ne vais pas le retirer de l'appareil, puisque j'ai 2 boîtiers. Et ben, le deuxième boîtier, bon, il est chargé en couleur. Et je l'ai fini il y a 3 semaines, des photographies que j'ai faites de ma fenêtre, le square qui est en bas de chez moi et que tu connais, et puis les fleurs sur ma terrasse. Et puis j'ai fait 2 photos de nu aussi, en couleur. Et puis c'est tout. Voilà, et puis hier, ça m'a pris, bon, j'ai découpé, et puis j'ai mis dans les petits caches pour projeter, pour voir. En fait, j'aurais pu donner 1 ou 2 photos à ce garçon. Elles méritaient d'être peut-être publiées. Mais enfin, je cours pas après, et puis j'aime mieux le noir et blanc.
Jean-Claude Gautran.
La fin du 19e siècle, avec les grands ateliers de photographie, c'était du travail à la chaîne, c'était du travail de photomaton un peu amélioré, c'était même pas hardcore. Donc il faut pas se leurrer. Et quelques photographes se sont dit, mais attention, on n'est quand même pas que ça, et la photographie c'est autre chose. Alors ils se sont mis à nouveau à recourir après la peinture, ça a été les pictorialistes, qui avec des moyens techniques différents ont tenté de singer plus ou moins la photographie. Mais ce n'est pas une critique dans mon esprit. On les critique beaucoup, moi je ne pense pas, parce que pour eux c'était une révolution. Ils ont voulu réagir contre quelque chose, mais ils ont réagi à l'extrême. Mais ça ne fait rien, c'est important de montrer que l'image photographique existait. Ils ont fait des belles photos, ils ont fait des choses qui étaient quand même admirables. Et ça a été une réaction. Et puis par la suite, bon, bah, le Barros, ça a amené des choses, ça a intégré la photographie. Elle a intégré, hein, le monde artistique a intégré la photo avec le Barros. Et après, il n'a plus cessé d'être intégré. Mais le problème actuellement, c'est que on a eu beaucoup de photographes qui ont utilisé le médium photographique, non plus en photographe, mais en plasticien, et qui ont continué à créer comme ça. Et les photographes se sont dit, mais dans le fond, ils font de la photographie, on va devenir nous aussi. Et c'est ça, pour moi, le problème actuel également, c'est que beaucoup de photographes jouent les plasticiens en n'ayant pas forcément la réflexion plasticienne, mais en jouant formellement sur ces... Et on arrive à des manifestations photographiques de renom. Je ne voudrais pas trop les citer, mais je suis obligé parce qu'on ne va pas comprendre ce que je dis.
Il faut citer.
Je vois cette année, j'ai pu aller au mois de la photo à Reims, par exemple, qui ont décidé de prendre un thème unique qui était le quotidien et la banalité. C'était bien banal. Mais je veux dire, tous ces gens qui étaient là-bas jouent les plasticiens, mais c'est pas possible. Ça peut être ça, la photographie. Je veux pas exclure ce, mais qu'on vienne pas, parce que c'est dangereux. À Reims, je viens de vous le citer, c'était le, mais à Cahors, c'est le fief de la photographie plasticienne. Ok, ils ont décidé ça, c'est normal. En Bretagne, le mois de la Bretagne est devenu maintenant aux mains de gens qui sont plasticiens. Au ministère de la Culture, on a un inspecteur général qui est un fervent défenseur des plasticiens. Moi, je veux bien tout ça, mais surtout qu'on n'oublie pas qu'il y a autre chose derrière quand même. La photographie, elle continue à exister. Et la photographie simple, celle de tous les jours, celle qu'on a défendue depuis des décennies et des décennies, elle est là. Alors, ça serait un peu dommage que, sous prétexte d'ennoblir la photographie pour l'amener au stade supérieur, parce que ça c'est sans arrêt la même chose, au stade de la peinture, disons, ce serait dommage qu'on la détruise et qu'on oublie, qu'on la trahisse un petit peu. Elle a des racines qu'il ne faut pas oublier. Nous, ce qui nous inquiète un peu dans le milieu photographique, c'est ça, c'est la mainmise, c'est méchant ce que je dis. C'est un peu la mainmise de responsables très intellectualisés, d'un milieu très intellectualisé, qui défendent cette théorie. Mais c'est toujours au détriment de quelque chose. Quand on impose dans des lieux une façon de voir, c'est pas fatalement au détriment d'autre chose qu'on ne montre plus. Et ça c'est dangereux, ça, quand même. D'autant que l'édition ne fait pas le poids actuellement. Hein. L'édition photographique, dans le livre, c'est pas très brillant. La presse, elle est en chute libre. Photographiquement, j'entends, c'est quand même en chute libre. Et ce qui est une des meilleures expressions de la photographie, pour moi, c'est le livre. Ça aussi, c'est en chute libre parce qu'ils ont beaucoup de difficultés et c'est vrai qu'un livre de photographie a bien du mal à s'amortir, disons, et à trouver sa clientèle. Il n'y a pas une grosse clientèle de photographie, ça c'est un problème aussi. Hein. Un livre de photo, une expo c'est pareil d'ailleurs, on parlait des expos, c'est un tout. Hein. Il y a 3, 4, 5 000 fans qui sont prêts à acheter quelque chose, mais ça s'arrête là. Elle n'arrive pas à trouver cette pulsion supplémentaire qui lui permettait de franchir un barrage.
Jean-Claude Gautran est aussi photographe.
Je suis très ségrégationniste, c'est vrai, puisque je ne fais que du noir et blanc. Moi, je pense, bon, la couleur, c'est intéressant, certes, mais le noir et blanc est tellement plus fort. Je dis toujours, le noir et blanc, c'est l'aristocratie de la photographie. Et c'est vrai qu'une photographie en couleur se livre immédiatement au lecteur. À savoir que vous la regardez et puis vous l'avez vue. Une photographie en noir et blanc, c'est pas vrai. Une photographie en noir et blanc, elle est chargée de mystères, elle est chargée de messages. On l'approfondit petit à petit. Il y a ces gammes de degrés, il y a ces gammes de lumière qui sont d'une préciosité et qui apportent une matière d'écrire. C'est comme un striptease, une fille qui se dévoile d'un seul coup, c'est beaucoup moins intéressant que quelqu'un qui se dévoile petit à petit. Je veux dire, non, mais c'est ça la photographie en noir et blanc, c'est bien plus riche, bien plus profond, et ça restera certainement beaucoup plus longtemps, ne serait-ce que scientifiquement, parce que la photographie en couleur telle qu'elle était actuellement, les tests de vieillissement l'ont prouvé dans, disons, n'exagérons rien, 75 ou 100 ans, il n'en restera pas grand-chose. Il n'en reste déjà pas grand-chose il y a 20 ans. La photographie noir et blanc bien traitée, non pas sur les nouveaux papiers plastiques, mais sur les papiers barytés à l'ancienne, dans 100 ans, 200 ans, la preuve, on a dans l'histoire de la photographie, on a encore des photographies des 150 ans, elles seront là, elles. Ça, c'est à voir, et que les amateurs ignorent. Les amateurs qui bourrent leurs images d'images couleur, ils ignorent que dans 50 ou 100 ans, il n'y aura plus rien. Ça, c'est dramatique, ça. Alors qu'en noir et blanc, il y a une pérennité absolue.
On voudrait parler de toutes les photos, mais on ne peut pas. On ne peut pas dans le cadre d'un travail comme celui-ci s'appesantir sur toutes les photos, mais elles sont toutes pleines d'émotions et de. Là, il y a. Ah, ça, vraiment, c'est une grande photo, ça. C'est une photo prise en hauteur. C'est. Il y a une femme qui est dans une espèce de baquet, elle prend son bain, dans une espèce de baquet, elle a les jambes à moitié hors de l'eau, l'eau lui couvre juste le bas du corps, de la poitrine jusqu'à mi-cuisse, et au deuxième plan, il y a une autre femme, il y a un rapport de gaieté entre ces deux femmes, de grande détente apparemment. Elles rient toutes les deux, et celle qui est derrière est nue, elle a une bassine sur une table, est-ce qu'elle fait la lessive ?
Exactement.
Elle fait la lessive, et c'est comme quasiment une scène de lavandière, comme on voit dans les lavoirs publics,
oui.
Mais c'est dans une prison, et c'est naturellement, il y a une charge émotive particulière.
Je ne veux pas avoir un livre qui est juste avec les images qui illustrent la prison. Je voudrais faire un livre avec les photos qui
donnent à penser.
Oui, qui changent, qui évoquent une émotion chez les gens. Mm-hmm. Et moi non plus, à l'intérieur des prisons, je ne suis pas libre. Je ne peux pas traîner, je ne peux pas attendre comme le luxe
oui,
qu'on a dans
la rue. Tu travailles toujours dans l'urgence.
Oui.
Parce que ça peut s'arrêter d'un moment à l'autre.
Oui. Et il y a beaucoup de manipulation, si vous voulez. C'est ça, il faut le dire. Beaucoup de manipulation de ma part envers les surveillants, j'entends, pas envers les détenus, où je dois les convaincre que, oui, bon, j'ai fait peut-être deux photos de distribution de courrier, mais c'est pas assez. Il faut que je le refotographie encore, tous les jours, jusqu'à ce que j'ai une image qui est bien.
Oui. Et les gens ne comprennent pas ça,
comprennent pas,
la plupart du temps. Bon, ben, vous avez fait votre photo, ça va, hein, vous
oui, partir.
Je connais ça, hein, tout le monde, enfin, tous les photographes qui ont fourni le reportage connaissent ces réflexions.
Surtout dans les prisons, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas être photographiés.
Ah, oui,
et
oui.
Ça, c'est leur choix, et je le respecte. Alors, il faut. La deuxième prison que j'étais. Où j'étais, il y avait 11 femmes et il y avait deux qui ont voulu être photographiées. Et je les ai photographiées pendant 7 jours, ces deux femmes-là. Et je crois que j'ai eu une photo que je vais utiliser dans le livre. You know, c'est comme ça.
Oui.
Meine Herren, mit 17 Jahren kam ich auf die
La bibliothèque historique de la ville de Paris a été fondée en 1871. Marie de Thésy y est conservateur. Elle a la responsabilité des importantes archives photos.
Et dès 1865, avant même que se constitue la bibliothèque actuelle, la ville de Paris avait demandé à Charles Marville de photographier systématiquement les rues, les portions de rues qui allaient disparaître dans la grande œuvre des rénovations d'Haussmann. Et nous avons comme ça 425 vues de Charles Marville, qui était vraiment un très très grand photographe et qui avait des tirages absolument parfaits et à partir de plaques de verre 30-40. Et ça, c'était un reportage absolument unique sur une capitale de l'époque.
Et on peut préciser qu'un livre réunit les photos de Marville sur Paris, et c'est vous qui présentez ce travail.
Effectivement, j'ai publié chez Azan un livre sur les photographies parisiennes de Marville. Il y a plus de 700 pages, je crois, parce qu'en fait, Marville a fait plus de 1000 photos sur Paris, parce qu'il a fait non seulement les rues anciennes, mais également les voies haussmanniennes, le mobilier urbain, les jardins et un certain nombre de monuments. C'était vraiment le photographe de Paris.
Donc, dès le début, il y a eu cette volonté de témoignage, de documentation, d'utiliser la photo comme documentation sur la ville. Quand on regarde maintenant les photos de Marville, on les regarde aussi avec un plaisir esthétique ou un regard qui est le même que celui qu'on pose sur des photos récentes de photographes qu'on considère comme des artistes.
Oui, tout à fait. J'ai fait, en même temps que la publication de ce livre, j'ai fait une exposition Marville pour le dernier mois de la photo, et je crois que la réaction de la plupart des gens était de dire mais c'est extraordinaire, étonnamment moderne, parce que il y a une très grande rigueur dans le cadrage, dans la composition et même dans le détail des photographies. La qualité des tirages est absolument parfaite, même meilleure que la plupart du temps que ce qu'on arrive à faire de nos jours, probablement parce qu'il y avait peut-être une qualité du papier et des produits enfin qu'on a du mal à égaler aujourd'hui.
Il semble que cette vision du paysage urbain par le photographe qui est Marville à cette époque-là est, je dirais presque une vision, soit une vision très spontanée, soit une vision d'homme de la rue, mais pas tellement une vision d'homme sorti de la peinture, parce que l'art de l'image à l'époque, c'est la peinture.
Oui, mais Marville a fait un peu de peinture, mais c'était surtout un illustrateur, si bien que il avait l'habitude, c'est comme ça qu'il a commencé, de faire des vignettes, des lettres ornées, dans lesquelles souvent on arrivait à faire tenir tout un paysage, dans un ministre, si bien qu'il avait un sens, je crois, de l'espace qui était formé précisément par cette illustration.
Et vous-même, comment vous êtes-vous spécialisé en photographie, sur la photographie par hasard, ou est-ce que c'est la passion qui vous a mené à prendre cette spécialité ?
J'ai compris assez vite l'intérêt de ces photographies absolument irremplaçables pour l'histoire, parce qu'on peut toujours décrire avec des mots tout ce qu'on veut, rien ne remplacera jamais une photographie de Marville ou d'Adjet. Et je me suis passionnée, c'est vrai, pour tous ces photographes des années 50-60 qui sont des gens absolument charmants, très humbles, très modestes, qui savent tellement bien parler de Paris, de leur sujet, qui eux-mêmes sont passionnés par tout ce qu'ils ont pu photographier. Et pour moi, ça a été une découverte extrêmement riche que de les fréquenter. Ça m'a appris à connaître Paris de l'intérieur, si je veux dire, le Paris de la rue, le Paris humain.
Est-ce que Paris est le centre de cette photographie humaniste qui semble être une spécialité française ?
Oui, c'est vraiment l'impression que Paris est tout à fait le centre de ce type de photographie. D'ailleurs, tous les photographes de l'époque, enfin beaucoup du moins, se retrouvaient au sein d'associations comme le groupe des 15 ou le rectangle avant la guerre. Et ils se montraient leurs photos, ils échangeaient. Et puis, je crois que ce sont des gens qui sont humanistes en eux-mêmes, enfin, qui adorent les gens, qui, aussi bien Rodis que Doineau que tous ces gens-là, sont des gens qui aiment aller dans la rue, parler au public, se mêler au petit peuple de Paris. Enfin, c'était vraiment leur attitude profonde que d'aller vers les gens.
Entre les deux guerres, il y a déjà un mouvement de photographes qui regardent Paris avec et les Parisiens et la vie à Paris avec une attention particulière et tendre, avec déjà un peu cette
oui, tout cette à fait tendresse. Ça. En fait, tout ça commence, je crois, dans les années 30. Je crois que c'est vraiment la grande crise de 1929-30 qui a amené un intérêt nouveau pour les gens les plus modestes et les classes les plus défavorisées. Cet intérêt, d'ailleurs, qu'on retrouve dans la littérature de l'époque, les Sandras, Marc Orland et autres, qui étaient souvent des amis, d'ailleurs, ou qui illustraient, en tout cas, les photographes de l'époque, Rennis et compagnie.
Willy Rennis à Paris, on a le réflexe de dire Belleville-Ménilmontant. Est-ce que pour vous, on retrouve bien, quand on regarde les photos de Willy sur ce quartier, on retrouve bien un quartier qui maintenant n'est plus tout à fait le même.
Oui, assurément, ça a terriblement changé, mais je crois que les photos de Rennis restent comme un témoignage absolument irremplaçable, effectivement, aussi bien sur l'aspect humain, qui est quand même toujours le plus difficile à saisir, que sur l'aspect des lieux. Mais enfin, Rennis n'a pas fait que Belleville-Ménilmontant, il a fait également beaucoup d'autres très très belles photographies dans Paris. Il continue même à en faire de très bonnes, d'ailleurs, parce qu'il a une vitalité assez étonnante. Et donc, c'est vraiment un témoin tout à fait remarquable, je crois.
Est-ce qu'il vous paraît que des photographes comme Willy Rennis, comme Robert Doineau, pour prendre les deux plus célèbres, ont une conscience de cette mission de témoignage qu'ils remplissent, ou est-ce que qu'ils font des photos dans leur bonheur, dans leur plaisir, dans leur regard, bon, sachant qu'ils photographient la réalité, mais peut-être n'apprécient-ils pas entièrement leur force dans ce sens-là?
Ah, je crois qu'ils l'éprouvaient, qu'ils l'ont toujours éprouvé. En tout cas, je sais que Séberger m'a toujours dit que les conservateurs de la Nationale leur avaient toujours montré à quel point leur photographie était un témoignage irremplaçable. Et en fait, après la guerre et jusqu'en 1960, tous les ans, ces principaux photographes humanistes qui se retrouvaient au sein du groupe des 15 exposaient à la Bibliothèque nationale. Il y avait un salon national de la photographie qui se faisait sous l'égide des conservateurs du cabinet des estampes, Adhémar et autres. Et ces conservateurs attiraient toujours l'attention des photographes sur l'aspect historique de leurs photos. C'est ce qu'on m'a toujours raconté, c'est Berger en tout cas.
Comment est-ce que vous pourriez reprendre dans une définition, donc une formule, c'est toujours un peu trompeur, pour dire ce que c'est la philosophie humaniste, la philosophie humaniste, la photographie humaniste.
Je pense que c'est d'abord une attention très profonde à l'égard de la personne en ce qu'elle a d'unique. En fait, je crois que la photographie humaniste reflète une attitude très profonde devant la vie, devant les gens, devant la ville et devant les lieux. Ce qui intéresse les photographes, c'est de montrer la marque des gens sur l'environnement, et l'environnement urbain en particulier.
Saint-Denis, juin 1994. L'écrivain Didier Deninx vient souvent se promener ici, en voisin. Aujourd'hui, Willy Rennis l'accompagne.
tel autre écluse.
Oui, comme tu veux, hein, on te suit. Moi, je ne connais pas du tout. Pour moi, c'est terrain incognita. Terrain incognita. Là, je vais faire une photo d'ici parce qu'il y a,
ouais.
Y a quelque chose que... Enfin, bien sûr, il n'y a personne, mais ça fait rien. Il y a quelque chose qui m'intéresse un peu du point de vue graphique. C'est pas mal, ça. Voilà. Alors, ce pont, il s'appelle comment ?
Oh, c'est les,
c'est chemin de fer.
C'est les ponts de chemin de fer de la gare de Saint-Denis. Quoi. Ouais, donc ouais. Ça n'a pas de nom particulier. Donc c'est doublé. Il y a les vieilles constructions du siècle dernier. Et puis, et puis le RER à côté qui passe. Ouais. Il y a le canal, il y a les tramways, il y a les autobus, il y a tout. Quoi.
Ouais.
Puis là, on est sur le chemin de halage. Hein, sur le vieux chemin de halage.
Ah oui, il est joli ce chemin, il est pittoresque.
Oui, oui, oui. Et c'était un... Et là, sur la droite, on va arriver... Bon, maintenant, c'est des friches, mais c'était des entreprises. Il y avait énormément d'usines, là, tout le long du canal. Et juste à côté, derrière, c'était...
Juste
à côté, il y a des annexes des chantiers de l'Atlantique et tout. Sur Saint-Denis, donc juste dans ce coin-là, là, tous ces coins-là, et qui donnaient, eux, sur la Seine. Il y a la Seine qui passe juste à 200 mètres.
Oui. Oui,
et ils construisaient des sous-marins. Et donc, il y avait des sous-marins qui étaient lancés là jusque dans les années 20, et où on voit les équipages sur le sous-marin, et le sous-marin qui s'en va au Havre. Et donc, c'était là, il y avait une fabrique. Alors, il y a plein de photos. Enfin, c'est assez curieux. Et il reste de... Tout cet endroit de construction de bateaux, il y avait aussi les franco-belges, et qui ont fermé il y a 3 ans, qui ont été détruits, ils ont fait des cités à la place. Et là, les franco-belges, j'ai assisté au lancement d'un navire de guerre.
Avec quelle année ?
C'était en 88 ou 89.
Ah, ouais, c'est récent.
Et ils construisaient des péniches de débarquement, tout un tas de choses comme ça. Et c'est pareil, là. Donc c'était un bâtiment pour mettre au moins 200 personnes, ce bâtiment que j'avais vu, c'était quelque chose d'important.
Ah, ouais.
Et il reste juste 3 petits chantiers navals qui font des bateaux-mouches, qui réparent des péniches, et puis tout un tas d'autres bateaux comme ça.
Ah, ouais.
Et qui sont toujours en activité, là, juste à Villeneuve-la-Garenne.
Et alors là, c'est le confluent de la Seine, un peu plus loin.
Là, c'est la naissance du canal Saint-Denis. C'est-à-dire qu'on va arriver, là, il y a tout un système d'écluses et tout, et on a vraiment la Seine, le départ du canal Saint-Denis. Puis le canal Saint-Denis, il arrive à Porte de la Villette, où il rencontre le canal de l'Ourcq, lui, vient de l'autre côté, quoi, vers la Marne.
Oui.
Et là, ça donne naissance c'est ce qu'on appelle le bassin de la Villette.
Oui, oui.
Et après, il y a le canal Saint-Martin qui se rejette, lui, dans la Seine, à la Bastille.
Oui, oui.
Donc c'est un petit peu tout le système comme ça. Là. Mais là, bon, moi, je me balade souvent dans ces coins-là. C'est toute cette végétation qui y a, ces espèces de tours rouillées d'usines là, donc sur lesquelles on va passer.
C'est des vestiges d'usines, ça.
Ça, c'était tout un tas d'usines là, de friches.
Ah oui, on voit les bâtiments là derrière. Tiens, je voudrais faire une photo de toi ici, avec ça derrière.
D'accord.
Et pas plus loin.
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?
Non, filme un petit peu plus par là, voilà. Oh, tu peux avoir tes mains dans tes poches, hein, là. Alors, je vais mettre un filtre pour avoir un peu de détails dans le ciel, un peu mieux dessiné. Voilà. J'ai le filtre.
De banlieue, on peut encore circuler avec les portes ouvertes comme ça.
Ah oui ?
Donner un petit peu de fraîcheur.
Tiens, c'est rare
possible
ça.
Dans les trains et c'est non. Plus possible dans le métro.
Non, non.
Dans les trains de banlieue, encore. Voilà. Regarde. Il y a un autre avion par-dessus.
Ah,
c'est l'avion américain avec l'autre avion par-dessus, on dirait.
Ouais, ouais. voilà, ça va ici. Alors, comment j'étais dans le champ, ça va.
Willy Ronis arrête Didier Deninx, lui demande de poser le temps d'une photo. Portrait de l'écrivain en pied.
Un appareil photo avec une carte orange.
Ça va, oui. J'en fais une deuxième. Une troisième. Oula. Avec un peu plus de sol. Voilà, c'est ça, comme ça. Voilà, je te remercie.
Non, puis là, l'autre fois, quand j'étais venu, il y avait... c'était en plein hiver. Et il y a tout un tas de gens, ça fait un petit peu comme l'Amérique des années, la fin des années 20.
Oui, oui.
Et il y a plein de gens qui habitent ici, des gens qui sont complètement tombés dans le ruisseau. Quoi.
Ah, ouais.
Et ils avaient un feu de camp, comme ça, ils étaient tous autour, une bonne dizaine. Mm-hmm. Donc là, c'est des. Il y avait les clochards sur les ponts de Paris et tout, et là, c'est tout.
Tu n'as pas une nouvelle où tu fais allusion à ça?
Ah, si, si, moi, dans En Marge, ça parle de tout ça. Ouais.
Il y a un siècle et demi, se pressant sur les quais, les bateaux lavoirs, les bateaux bains, la foule regardait passer au fil de l'eau la dépouille mortelle de Napoléon Ier l'insulaire. La ville est ramassée au centre de l'île, un boomerang épousant parfaitement la courbe de la Seine. À droite, le quai de la Marine, où habitait Ravachol, file vers le parc édifié sur l'emplacement de la plus gigantesque casse de voitures de la région. Les engins de terrassement font pousser des collines que l'on enferme aussitôt derrière des grillages. À gauche, le quai du Châtelier et la barrière interminable des entrepôts du printemps des Galeries Lafayette. Le terminal d'Unibéton enjambe la route et surplombe le ponton auquel plus une péniche ne s'amarre. Juste à côté, le portail de la fabrique de parfums s'ouvre chaque jour pour laisser entrer les bennes débordant de résidus de boucherie que harcèlent des centaines de mouettes repues. Quelquefois, au hasard de la promenade, un cadrage restitue sur les berges d'Épinay l'ambiance des tableaux de Sisley accrochés au mur d'Orsay. Le canal Saint-Denis prend naissance à deux pas près des chantiers de l'Atlantique. Au début du siècle, des sous-marins rutilants sortaient des ateliers et descendaient la Seine jusqu'au Havre. Quelques péniches s'engagent encore dans le chenal. Sur un banc, trois hommes, apparemment des SDF. En marge, c'est le titre d'un recueil de nouvelles de Didier Deninx, une rencontre impromptue, l'après-midi, au bord du canal.
Bonjour.
Bonjour.
Attends,
mais...
Qu'est-ce qu'il va nous montrer, le
copain? L'objet, hein. Vous pouvez faire la même chose.
C'est des photos.
Vous savez pas que cette photo-là.
Et celui-là.
C'est très bien aussi.
Bah oui, c'est bien.
Attends, il y a un autre.
Vous faites quoi juste?
Attends.
Hey. On se promène le bord de l'eau comme ça, puis on discute.
Bah oui. Eh, il y a le mieux.
Dans le journal.
Ah, c'est très bien ça. Très bien. Ouais. Avec la petite fille, c'est une très bonne photo.
Je suis un héros de Saint-Denis.
Ah oui?
Oui. Pourtant, il n'y a pas longtemps que je suis à Saint-Denis. Mm-hmm. Je vais faire une quarantaine d'années.
Ça fait 40 ans que vous êtes à Saint-Denis?
Oui.
Un bail, hein?
Vous parlez bien le français, n'est-ce pas?
On espère.
Mais coupez la photo, monsieur.
Attends. J'attends de parler. C'est une question que vous proposez. Comme vous êtes des spécialistes en plus, je voudrais bien savoir quel moment donc il y a le jour et nuit et sont égaux.
L'équilibre du jour et de la nuit.
Oui. C'est deux fois par an.
C'est deux fois par an.
Oui.
Mais c'est ça doit être en octobre, en septembre et mars, je crois.
Ah, bravo, félicitations.
Septembre et mars.
Oui, d'accord. Là, oui. Ah, t'es gagné. C'est bon.
Allez. Donc, on retourne. Merci. Je crois qu'on revient par ce chemin. À tout à l'heure.
Ouais, allez, bonne journée.
Salut les amis. J'ai essayé d'enquêter à Conflans-Sainte-Honorine et auprès de société de batellerie pour retrouver la trace des deux gamins qu'il y a dans ma péniche aux enfants.
Ah,
oui. Impossible. Cette photo-là, c'est le mystère total. Alors voilà, avec les temps.
Voilà, ouais.
Ben, je vais peut-être aller faire une photo de ça. On peut passer là-dessus.
Oui.
Réseau fluvial de la ville de Paris, canal Saint-Denis. Ouais.
Donc bassin de la Villette, il est à 7 km 3, ce qui fait 2h30 de péniche.
Ouais,
c'est marrant, le canal Saint-Martin, donc PKO, écluse 1-2, 8 km,
2h40. 21h du port au Perche.
Ouais. Et le débouché en Seine, c'est-à-dire la Bastille, est à 12 km d'ici et ça fait 4h40.
Même plus loin que la Bastille, puisqu'il y a l'Arsenal.
Voilà, Paris-Arsenal, qui est entre les deux.
C'est ça.
Ouais.
Oui, c'est bien.
Et donc Meaux Saint-Rémy, on le rejoint par l'Ourcq, quoi. C'est-à-dire à la Villette, on prend l'Ourcq et on est à 53 km pour prendre Meaux Saint-Rémy. Voilà, c'est l'écluse de la Briche.
À bord de l'Atalante.
Du papier autour.
On part tout de suite, passant.
Si on part, tu sais bien que oui.
Bon, ben, je vais secouer le moteur.
Bertrand Evenot est amateur de photos et collectionneur. Il aime Willy Ronis, auquel il a consacré 2 livres, un volume de la collection Photo Poche et un ouvrage aux éditions Bellefond. Nous lui avons demandé de choisir une photo de Willy Ronis. Il nous a répondu « La péniche aux enfants, Paris, 1959 ».
J'ai choisi La péniche aux enfants, qui est une photo prise en 1959, un jour d'hiver. D'ailleurs, j'ai vu avec Willy la planche de contact de ce film. Et il y a 2 très bonnes photos sur ce film, sur la planche de contact, ce qui est assez rare. Enfin, ça arrive parfois dans la photographie, mais d'avoir 2 très bonnes photos dignes d'être exposées, éditées sur la même planche de contact, donc sur la même journée de film. Cette photo est une photo très réussie. Elle est à la fois de la famille de l'instant décisif, comme dit Cartier-Bresson, c'est-à-dire c'est une photo où un quart de seconde après, elle aurait été ratée, et un quart de seconde avant, elle n'aurait été effectivement aussi ratée, puisque c'est un train de péniche qui passait sous un pont, où Willy Ronis l'a guetté alors qu'il arrivait d'un côté du pont, puis voyant que le train de péniche passait sous le pont, il s'est précipité de l'autre côté. Donc il a pas mitraillé, puisqu'en tout il y a 5 ou 6 images seulement, mais il a cherché à cadrer à partir d'une idée générale d'un train de péniche sur la scène, il a cherché à cadrer la photo la plus belle qu'il pourrait prendre. Et puis il a été servi merveilleusement par le hasard, puisque penché sur le pont, je ne sais pas si c'est le pont d'Arcole ou un autre, il s'est aperçu qu'une des péniches contenait à l'intérieur, c'est une péniche vide, 2 enfants en train de jouer, l'un avec une petite voiture, l'autre les bras levés. Et donc il a saisi cet instant merveilleux où il y a ce train de péniche qui file sur la scène, et puis 2 enfants qui jouent dans cette boîte magique qu'est une péniche vide, alors que le monde défile autour d'eux et qu'ils ne le voient pas. Donc c'est le côté instant décisif. Et en plus, je crois que le second aspect de cette image, c'est que c'est une image merveilleusement cadrée, avec un plan vertical. C'est une image en hauteur. La ligne d'horizon est rejetée pratiquement au 15% supérieur de l'image. Donc l'horizon n'est pas du tout au milieu de l'image. Et telle qu'elle est donc prise en plongée, comme on dit au cinéma, puisqu'il est en surplomb, il est sur la rambarde d'un pont, et en dessous une péniche passe, il cadre dans le fond l'île Saint-Louis. On a l'impression d'ailleurs qu'il y a des inondations, enfin la scène a l'air très haute, on ne voit pas le quai. Il cadre l'île Saint-Louis, qui est une jolie ligne assez douce, avec des arbres d'hiver, et les petites maisons aux petites fenêtres. Puis il y a cette longue courbe de la péniche, enfin du train de péniche. Il y a 1, 2, 3, 4 péniches. Et malgré cette courbe, donc un effet de courbe et d'horizon vers lequel on se dirige, il y a également une énorme verticale qui prend pratiquement tout le bord gauche de l'image jusqu'à la moitié, qui est une verticale parfaite. Elle est cadrée ainsi d'ailleurs sur le négatif, qui vient donner une très forte structure graphique à l'image. Donc il y a les 3 choses qui, moi, peuvent m'intéresser. C'est l'instant décisif. Une surprise miraculeuse saisie au bon moment. C'est aussi un paysage très doux et c'est enfin une très forte structure graphique. Donc on a quelque chose là qui est de l'ordre du miracle de la photographie telle qu'il la pratique.
Willy a souvent une façon très particulière de relever le plan horizontal de la photographie.
Oui, c'est une chose dont on a parlé, que l'on a remarqué dans nos entretiens. C'est en partie lié, je crois, à la technique du Rolleiflex, c'est-à-dire avec qui a été pratiquée pendant un certain temps. Et puis, en fait, il la pratique également avec le Foca qu'il avait, enfin, donc un appareil à viser à l'œil et non pas j'explique pour nos auditeurs, peut-être le Rolleiflex est à viser, je dirais, au niveau du nombril. Un photographe russe a dit, en me regardant le nombril, je regarde le monde, qui est philosophiquement quelque chose de très intéressant. Donc le Rolleiflex permet ce genre de visée redressée. Mais en même temps, Willy l'a étendu très, très vite aux photographies qu'il a prises sans Rolleiflex, mais donc avec un objectif à viser à l'œil. Et aujourd'hui, il la pratique aussi. Je pense qu'il y a là quelque chose de l'ordre de son esthétique et d'après ce que j'ai pu analyser, discuter avec lui, aussi de l'ordre de sa morale. C'est-à-dire qu'il cherche à la fois sur le plan moral, peut-être. Il m'a dit une fois, oui, pour moi, le ciel est vide. Donc position, je dirais, agnostique, classique. Et donc si le ciel est vide, il n'y a pas lieu de le photographier trop. Encore que là, il y a une pirouette, parce que dans certaines de ces photos, le ciel est très présent. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de photos de nuages. Quand on compare à un photographe comme René Jacques, par exemple, qui est de sa génération, un peu plus âgé que lui, qui a des photos superbes de nuages, de nuées brumeuses. Et Willy Rollins, pas du tout. Et Willy, par contre, dit le ciel est vide, je ne le photographie pas. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi chez lui un travail assez particulier de construction, notamment dans les photographies verticales, comme ça. Il y en a d'autres dans les 60 ou les 100 meilleures photos de Willy Rollins, il y en a d'autres comme ça. Une construction dans l'image très verticale, une longue verticale qui longe, les horizontales qui structurent. Vous avez la photo de Venise, par exemple, Fondamente Nuove, ou bien d'autres sur l'île de la Cité, au Vergalan. Qui sont construites ainsi. Il aime bien rejeter l'horizon vers le haut. Et moi, je pense que ça a un effet, n'est-ce pas, qui conduit à conduire une espèce de courbe convexe qui organise toute l'image et qui fait qu'en réalité, le premier plan, le plan moyen et l'arrière-plan sont dans une continuité très douce. Autrement dit, il n'y a pas cette espèce de pli qu'on trouve dans les photographies, par exemple, prises face à un mur, alors qu'on a du sol puis un mur. On a toujours une espèce de ligne qui vient plier. Ceci, il l'évite avec beaucoup d'art et beaucoup de science en construisant ces images verticales avec rejet de l'horizon un peu plus haut, enfin le plus haut possible. «
chez Didier Deninx à Aubervilliers, où Willy Ronis fit des photos à une autre époque.
Ça, je sais pas où c'est.
C'est un coin perdu dans le vieil Aubervilliers. C'était en quelle année? C'était en 54.
En 54.
Donc il y a 40 ans.
Ouais.
40 ans. Ça, c'était en 54. 50, ça, 50. Ouais. C'était les premiers HLM, probablement, construisait là.
Il y en a 3 ou 4 à travers Aubervilliers, ça ressemble à la cité de Presles.
Alors, il y en a une à laquelle j'attache. C'est un tirage de celle-là, parce que ça, c'est un tirage plus récent. On le voit par la couleur. Ouais. Ça n'a pas vieilli. Tandis que j'ai un tirage fait au moment où j'ai tiré après avoir visualisé mes premiers contacts. Et c'est une épreuve un peu plus grande que ça et que j'avais gardée pour toi, mais stupidement, j'ai dû l'oublier sur mon bureau.
Ça a été complètement rhabillé maintenant.
Ah oui.
Puis ça s'est construit, il y a une école à côté.
Bien sûr, parce que depuis 40 ans, tu penses.
Oui, moi j'étais dans ce coin-là.
Tu étais dans ce coin-là.
Ah, c'est mon coin.
Ça, c'était près du canal. Ça ne va pas être loin du Landy non plus.
Ah oui, oui, non, c'est le quartier Landy, ça. Oui. C'est le quartier Landy. Oh,
ouais. Ça doit être cette maison-là. Ouais. Avec le gamin à vélo et la petite sœur qui tient...
Ah bah attends. Non, ça y est, maintenant je sais exactement où c'est. C'est à 100 mètres d'ici.
Ah oui.
On peut y passer. Ça
n'a
pas du tout changé. Mais ça ressemble parce que c'est les mêmes constructions
des
années 50.
Tu vois, j'ai deux tirages, un en hauteur et un en largeur. Ben,
On va y passer, tu sais comment ça s'appelait ça?
Non.
Ça s'appelle la cité des perroquets à Aubervilliers, parce qu'ils avaient peint, après quand ils l'ont refaite au début des années 50, ils ont fait un coin jaune, un coin rouge, vert, bleu, et chacun avait sa couleur comme ça.
Oui.
Et c'était la cité qui était considérée comme la cité la plus... comment
la plus avant-gardiste.
La plus avant-gardiste d'Aubervilliers, et c'était là où habitait Ralit.
Ah oui, bien.
Ils sont revenus dans cet état-là.
Alors, tu vois, là, il y a un exemple de la manière dont on composait quand on travaillait au 6-6. On faisait quelquefois une composition en largeur, quelquefois du même cliché, une composition en hauteur. Je t'offre l'une des deux. Laquelle veux-tu? Laquelle tu préfères?
Celle-ci.
Bon, voilà. Ça, c'était une famille pauvre que j'avais... En 1950, que j'avais photographié dans un quartier un peu déshérité d'Aubervilliers.
Ouais. C'était à peu près la majorité de la ville était
comme ça. Bah oui, elle était comme ça.
Au début des années 50. Hein.
Ça, c'est dans l'île.
Ah oui, un vieux tirage. Ça se voit la qualité.
La qualité.
La couleur est différente.
Oui, la couleur est différente et puis le papier un peu vieilli. Mmh. Ça, c'était dans l'île Saint-Denis.
Ouais, ouais.
Ah oui.
Et
oui.
Ça, c'est une usine, ouais, je crois que c'est, je sais pas quoi, Astra ou un peu
ah
comme
non.
ça.
Ah non, Astra, ou... je l'ai ici.
Ah d'accord. Ouais.
La voilà.
Voilà, Astra. Ouais, ouais. Enfin,
Astra, mais c'est un cliché que j'ai fait le même jour. Mm-hmm. Alors, ça,
je me suis toujours demandé, parce que cette photo-là que je connais bien, donc il y a le personnage, là, le jeune garçon qui est en train de jouer avec.
Qui lance un avion.
Qui lance un avion, on a vraiment l'impression que c'est un véritable avion.
Oui.
Comme ça. Mais ça. Comme c'est l'île Saint-Denis, ça m'a toujours donné l'impression que c'était la Seine. Alors que non, c'est un terrain.
Ah non, c'est un terrain vague. Là, c'est un terrain un pelé où il n'y a pas d'herbe même.
Mais il suffit d'enlever ça et c'est véritablement
ça,
un fleuve.
Ça pourrait être, ça pourrait
et
être.
Moi, je le lis comme un fleuve et non pas comme un terrain.
Ah ouais. Ouais. Ah, puis ça, je l'aime bien. Ça, je l'ai fait en 48. Là. C'était ma première visite à Aubervilliers dans une école.
C'est une école, hein.
Et il y avait un gars qui faisait le guignol ce jour-là, qui avait apporté un guignol. Et les gosses, ils étaient ébahis, ils regardaient le guignol, tu vois. Et la petite fille, on dirait déjà qu'elle est marchande de quatre saisons.
Ah oui, 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 complètement. Puis les vêtements déchirés, enfin c'est
et puis le châle croisé sur la poitrine, c'est ça, sa maman, quoi, il y avait ce châle-là.
Et il y a une chose qui n'a pas changé, c'est que dans les spectacles, dans les écoles, les institutrices se tiennent toujours au même endroit.
Au même endroit.
sur le côté, en dessous de la fenêtre, à gauche.
Et ça, c'était aussi en 1950.
C'est... comment? Parce que la ville, elle est conçue dans l'imaginaire des gens comme une ville de cité extrêmement dure, comme ça. Mm-hmm. Et alors que c'est une ville qui est une ville de paysans au départ, surtout le cœur de ville, comme ça, et où tout était construit en petites courettes, comme ça. Et donc il y a les bâtiments, on rentre, et toujours derrière, il y a un espace avec des maisons. Donc là, c'est les années 50, c'est totalement délabré en matériaux de récupération. Mais maintenant, ça a été refait et c'est vraiment très agréable, toute cette
construction. Ah oui, tout ce
coin-là. C'était pour ranger les charrettes, tout simplement, toutes ces cours intérieures. Un petit peu comme les cours d'artisans de Paris.
Type
de construction.
Et ça, c'était aussi dans une famille pauvre.
Ouais.
Très pauvre. Vraiment des prolos, hein, tout à fait démunis, quoi. Là, c'était le petit garçon qui va aller à l'école. Les parents sont déjà partis au boulot et il finit de faire sa toilette, tout ça.
Comme la toilette.